Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 3 décembre 2021 et en tout cas aux États-Unis, on a de nouveau réanimé le concept du buy the dip, racheter sur faiblesse, alors qu'en Europe, on continue à flipper complètement dans la thématique du variant Omicron qui reste quand même l'obsession principale du marché pour le moment. Heureusement, cet après-midi, il y a des choses qui devraient peut-être nous distraire et nous permettre de parler d'autre chose que du variant Omicron, en tous les cas pendant quelques minutes, puisque cet après-midi, je vous le rappelle, il y aura la publication des chiffres de l'emploi américain, ce qu'on appelle les non-farm payrolls, les NFP, et on attend 550 000 créations d'emplois et un taux de chômage à 4,5%, ce qui pourrait ranimer un petit peu l'intérêt de la macroéconomie plus que de la thématique du variant. Pourtant, ça reste vraiment la clé du moment. Donc oui, hier, les Européens nous ont fait une journée classique panique, par un coup, en tout cas gros stress par rapport au variant Omicron. Donc ça sert à rien de discuter plus loin, plus longtemps. C'est augmentation des contaminations. Il n'y a pas 5 minutes qui passent sans qu'on ait un article sur la thématique comme quoi tel endroit, il y a une personne qui a été contaminée. Donc on a mis en quarantaine la moitié du village autour pour protéger contre les éventuelles contaminations. Donc on continue dans cette pression absolue. On ne parle quasi plus que d'obligations vaccinales à venir dans la plupart des pays européens. Donc il y a une tension quasiment palpable. En Suisse, on attend encore l'intervention du Conseil fédéral qui pourrait même encore resserrer les mesures qu'il a déjà abordées durant la semaine. Donc du coup, on reste toujours vraiment très coincé là-dessus. Par contre, c'est vrai qu'aux États-Unis, on a ouvert hier un peu dans la même réflexion, dans la même thématique, en se disant ouais, c'est pas bon, c'est moche, mais on a ouvert plus ou moins flat, puis tout d'un coup, on a démarré, parce que finalement, il y a une autre théorie qui revient un petit peu par-dessus, c'est le principe de finalement que ce variant Omicron, effectivement, serait ultra contagieux, mais par contre, au niveau des symptômes, ce serait beaucoup plus léger, et il y aurait très peu, voire pas du tout de conséquences pour les gens qui sont infectés. Ce qui pourrait être une bonne nouvelle, mais pour l'instant, on n'ose pas vraiment encore aborder le sujet. Donc, du côté macro, on reste de toute façon concentré sur la problématique du tapering accéléré, puisque depuis quelques jours, on est convaincu que Monsieur Powell, eh bien, va accélérer le tapering et nous monter les taux. Alors, pour l'instant, personne n'a vraiment encore osé dire que les taux vont monter en mars 2022, mais ça ne saurait tarder. Peut-être cet après-midi, après les chiffres des non-farm payrolls. Mais de l'autre côté, on a plutôt digéré cette information. On sait que finalement, Powell, il est passé du côté dovish au côté hawkish. Donc là, on a un petit peu digéré la chose. On se concentre maintenant plus sur le fait, effectivement, que, eh bien, finalement, on pourrait s'en sortir avec ce variant Omicron. Et c'est vraiment une des thématiques qui revient de plus en plus ces derniers jours. Faut-il encore y croire? Et puis, la deuxième chose, c'est faut-il oser en parler pour l'instant, parce que c'est vrai que d'un côté, on a le côté gouvernemental qui devient très restrictif, qui a très peur et qui resserre les boulons dans tous les sens. Et puis, de l'autre côté, eh bien, on a quand même cette opinion qui est en train de revenir de plus en plus, qui dit, ouais, mais si tout le monde se fait contaminer par ce variant Omicron parce qu'il est ultra contagieux, mais que derrière, il n'y a que très peu de symptômes, eh bien, c'est comme ça qu'on va peut-être obtenir l'espèce d'immunité de groupe qu'on attend depuis très longtemps, et c'est ce qui pourrait envisager, certains en parlent déjà, de parler de fin de la pandémie. Alors, c'est évidemment trop tôt pour en parler. C'est pas que moi qui dis ça, parce qu'il y a aujourd'hui, il y a JP Morgan qui a même écrit un article dans cette thématique en disant que c'est peut-être le mieux qui puisse nous arriver. Donc il y a 2-3 voix qui commencent à s'élever dans ce sens-là en disant oui, évidemment, c'est pas bien d'être contaminé. Oui, il faut se protéger contre le variant Omicron, mais de toute façon, il va faire son travail qui pourrait être finalement plutôt positif parce que du coup, on va tous obtenir cette immunité. Donc c'est bien difficile d'aborder le sujet, puisqu'effectivement, il n'y a absolument aucune certitude. On sait plus ou moins qu'on aura des détails sur ce variant dans quelques jours, puisque tous les scientifiques sont en train d'essayer de séquencer ce variant pour savoir s'il faut en avoir très très peur ou si finalement c'est une bonne nouvelle. J'imagine assez mal que finalement les autorités viennent nous dire « Non mais finalement, c'est bon, laissez-vous contaminer, c'est une bonne chose ». Mais en tous les cas, les marchés puisque c'est ça qu'on regarde ici dans ces vidéos, ont l'air en tout cas de bien digérer la chose et de repartir dans la bonne direction, en tous les cas pour les États-Unis. C'était moins flagrant sur le Nasdaq, mais le reste s'est bien repris de nouveau. Les gens sont revenus un petit peu sur les value d'abord, plutôt que sur la tech. La tech avait peut-être moins baissé, mais c'est vrai qu'on a eu très peur, en tout cas il y a 48 heures, parce que les niveaux techniques étaient en train de casser. C'était vraiment pas beau. Le reversal d'hier est plutôt encourageant. Et on retrouve un petit peu l'envie de sourire ce matin, parce qu'effectivement, voilà, bah pour l'instant, on a vraiment Omicron qui est en plein centre des préoccupations du marché, mais on a l'air de, on va dire, de moins paniquer, ou en tout cas d'avoir digéré la chose. Il ne faudra évidemment pas qu'il y ait de nouvelles mauvaises nouvelles là-dessus, un confinement ou vraiment quelque chose où on nous restreint encore plus. Mais en tous les cas, pour l'instant, le marché a l'air d'avoir donner le tour, en tous les cas aux États-Unis, à l'Europe de faire son travail aujourd'hui, parce qu'encore une fois, il faut noter que l'Europe a clôturé assez mal hier, et les Américains ont commencé à démarrer une fois que les Européens étaient rentrés au bureau, un grand classique de la finance mondiale. Donc voilà, aujourd'hui, la thématique de l'investissement, c'est la pandémie, puisqu'on est revenu à fond là-dedans, donc c'est assez intéressant à observer dans les médias, puisqu'il y a, allez, 3 semaines en arrière, c'était extrêmement difficile de trouver le mot Covid dans des journaux comme le FT, le Wall Street Journal, le Barron's, et puis finalement, aujourd'hui, c'est devenu un peu l'obsession générale, vous pouvez pas ouvrir un journal sans que vous ayez 45 articles sur la thématique du variant, que certains médias vous apportent tous les médecins sur les plateaux pour dire que ça va très mal, donc on est vraiment revenu complètement sur cette thématique-là. Et à côté, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais il faut quand même noter 3 choses. J'ai noté 3 choses ce matin. La première chose, c'est la problématique des titres chinois cotés aux États-Unis. Alors évidemment, vous connaissez tous les titres chinois cotés aux États-Unis, des boîtes comme Baidu, des boîtes comme Alibaba, bien sûr, Alibaba qui est en baisse de 45% cette année pour les problèmes que l'on connaît, pas forcément pour des raisons fondamentales, puisque les chiffres sont relativement corrects, les ventes sont relativement correctes, ça va relativement bien. La problématique, c'est la pression gouvernementale qui est en train de resserrer les vis sur tout ce qui touche de près ou de loin à la Chine, à l'extérieur de la Chine, et la dernière rumeur en date serait que finalement le gouvernement chinois obligerait les sociétés chinoises qui sont cotées à l'étranger à délister leurs actions et à venir se coter plus que sur les marchés chinois ou Hong Kong. C'est le cas, en tout cas, bah, évidemment, d'Alibaba, ça baissait pas mal hier à cause de cette réflexion ou de cette crainte, de ces rumeurs qui circulaient. Et ce matin, on apprend que Didi, le Uber chinois, a annoncé son délisting des États-Unis, eux qui viennent d'être listés il y a style 2 mois. Et donc, aujourd'hui, ils ont annoncé leur délisting du marché américain. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour les titres chinois-américains qui risquent tous de devoir sortir pour retourner à la maison. Alors ça, c'est vraiment pas bon. Dans un premier temps, ça sera pas bon. Dans un deuxième temps, après, elles coteront comme des sociétés normales, mais c'est clair qu'il y a certains gros fonds américains qui sont aujourd'hui investis dans ces boîtes chinoises qui ne pourront pas forcément aller reprendre des positions pour des questions réglementaires internes, reprendre des positions sur des marchés comme Hong Kong ou alors carrément la Chine, surtout la Chine. Donc du coup, c'est encore une mauvaise nouvelle pour les titres chinois cotés aux États-Unis. On verra, on aura plus d'informations officielle, entre guillemets, ces prochains jours. Mais en tout cas, sachez aujourd'hui que la pression vendeuse continue sur les titres chinois aux États-Unis parce qu'il semblerait que, eh bien voilà, les Chinois rappellent tout le monde à la maison. Autre petite news du jour qui est passée plus ou moins inaperçue pour l'instant, mais on va en parler aujourd'hui, c'est la société DocuSign. DocuSign, ben vous connaissez le principe, vous savez à quoi ça sert. C'est une société qui avait vraiment explosé durant le début finalement de la pandémie, puisque ça évitait les contacts physiques et ça permettait aux gens de signer des documents à distance. Donc ça, elle a cartonné pendant des mois et des mois. Et hier, ils ont publié des résultats et ça montre vraiment qu'elle est en perte de vitesse. C'est que la croissance qu'elle avait réussi à générer grâce à la pandémie est bien en train de ralentir à toute vitesse. Le titre a publié les chiffres after close hier soir, et puis après la clôture et après l'annonce, le titre perdait 30% sur des chiffres décevants. Donc DocuSign se prend une claque monumentale, elle revenait déjà de très très haut, mais là quasiment à l'espace de quelques mois, elle aurait perdu la moitié de sa valeur. Donc on n'est pas dans un crash, évidemment non, parce que tout le monde vient encore souvent nous parler de crash et attention, ça va se péter la figure. Mais c'est vrai qu'il faut quand même regarder à l'interne de certains titres, même si les indices principaux n'ont pas baissé, pas forcément baissé, eh bien il y a quand même des titres à l'intérieur qui se sont pris des claques monumentales. Je pense à des Zoom, je pense à des Peloton, toutes ces boîtes qui ont vraiment bénéficié de la pandémie se sont fait démonter. Donc soit aujourd'hui, on revient sur une pandémie avec les boulons hyper serrés parce que Omicron terrorise la planète et peut-être qu'il y a encore un espoir sur ce type de boîte-là, ou bien alors, finalement, eh bien, c'est, on va dire, les belles années, les deux belles années sont terminées pour ce secteur pandémie, entre guillemets. Et puis, la dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le pétrole. Alors, l'OPEP a fait des commentaires hier, positifs, négatifs. Pour être honnête, on s'en fout, faut juste regarder la réaction du baril. Donc, dans les premiers instants du moment, on a eu la pression à cause des craintes économiques liées aux variants Omicron. Les déclarations de l'OPEP ont rajouté une couche. Le baril s'est fait démonter à un certain moment et puis il a fait un reversal, ce qu'on appelle un retournement assez spectaculaire pour terminer finalement la séance au plus haut de la journée. En général, ce genre de renversement de tendance, si elle est confirmée par une séance positive ou deux derrière, ce qui a l'air d'être le cas déjà ce matin, eh bien ça pourrait dire qu'on a fait vraiment un retournement de tendance sur le baril et qui pourrait... Je mets ça au conditionnel, qui pourrait avoir terminé sa correction et qu'à partir de là, on peut envisager un retour assez facilement en direction des 75. C'est pas une recommandation d'investissement, mais ce genre de reversal énorme et massif est assez rare pour être signalé. Donc tant qu'on ne recasse pas les plus bas de hier, eh bien je pense que le baril a peut-être fait quelque chose d'assez important d'un point de vue technique à surveiller. Et là aussi, hein, si on reprend ce que je disais en début de vidéo sur le fait que peut-être le variant Omicron va nous amener à une immunité générale plutôt encourageante pour tout le monde, si cette théorie, si ce scénario se confirme, le baril est un truc qui va repartir comme un bouchon de liège à la surface de l'eau. Voilà, la question du jour ce matin, elle est assez courte. Je vais essayer d'y répondre de manière assez courte parce que je suis pas très fort pour me canaliser puis arrêter de faire des vidéos trop longues. C'est une personne qui me dit, à défaut de trouver un ETF sur un basket crypto, il existe un fonds Paradigm One, c'est impossible à prononcer ce truc. Paradigm One, c'est un fonds crypto et donc la personne me demande ce que j'en pense. Alors je vais vous dire un truc. D'abord, c'est pas le seul fonds crypto qui existe, il y en a d'autres. Je ne vais pas prendre position sur les fonds d'investissement parce que d'abord ça demande une analyse un petit peu plus poussée que lire le fact sheet. Il faudrait déjà avoir l'occasion de comprendre leur stratégie, voir comment ils fonctionnent, qui sont ces gens derrière, quel est le manager, quelle est sa stratégie, etc., etc. Donc c'est pas une réponse aussi simple. Investir dans un fonds, on va dire surtout des fonds un peu spécifiques ou des hedge funds, un petit peu des fonds alternatifs, parce que ça, appelons ça un chat, c'est un fonds alternatif, eh bien, ça demande toujours un travail en amont pour bien comprendre comment fonctionne le fonds. Donc, c'est pas à moi de vous dire ce que j'en pense, mon opinion là-dessus. Je vais pas critiquer ni dire c'est génial, parce que je ne connais pas suffisamment la structure du fonds et l'opérationnel du fonds. Il faut déjà avoir fait un petit travail en amont, peut-être avoir eu l'occasion de rencontrer les managers dans une présentation quelque part pour se faire déjà une idée. Donc c'est difficile de dire oui c'est bien ou c'est pas bien parce que ce ne sont pas des fonds indiciels contrairement à certains ETF qui sont liés à la performance du sous-jacent. C'est-à-dire que si vous prenez un ETF sur le S&P 500, eh ben, il traque le S&P 500. Donc en gros, vous savez à quoi vous exposez. Un fonds crypto... C'est la location qui va dépendre de tout. Si le gars, il vous met 100% de Bitcoin et que le Bitcoin ne bouge plus comme il est en train de faire depuis deux jours, et puis qu'à côté, vous avez d'autres cryptos qui cartonnent et qui prennent 200%, et ben vous aurez une performance complètement décevante par rapport au reste du marché global des cryptos. Voilà, donc ça dépendra de la location et de la stratégie. Et tous ces fonds qui sont finalement des fonds thématiques sur un secteur, eh bien, ça dépendra de la confiance et des compétences finalement du manager. Chose que je ne peux pas juger aujourd'hui par rapport à ce que j'ai comme information sur Paradigm One. Et même si j'avais plus d'informations, c'est toujours extrêmement difficile parce que c'est subjectif. J'ai rencontré dans ma vie beaucoup de fund managers. J'en ai été un d'ailleurs. Et en fait, c'est toujours... D'abord, il y a déjà un côté humain quand vous rencontrez la personne, de savoir si elle vous inspire confiance ou pas. Et puis après, il y a la stratégie. Et la stratégie, plus le backtesting, plus le passé, la performance passée, ça ne veut pas dire qu'il sera aussi bon dans les années à venir, mais donc ça donne toujours un petit peu un certain regard. Et donc, c'est extrêmement difficile, pour pas dire impossible, pour moi en tout cas, de porter un jugement sur un fonds comme ça, sorti de nulle part. Donc... Le seul conseil que je pourrais donner par rapport à ça, c'est que quand vous voulez investir dans un fonds, faites ce qu'on appelle une due diligence. Observez, obtenez le maximum d'informations, essayez de comprendre la stratégie de la personne, de voir quelle est la pérennité de la stratégie. L'exemple typique, c'est que si vous investissez avec un produit qui réplique la stratégie de Warren Buffett, eh bien c'est génial parce que vous avez 60 ans de regard en arrière qui permet finalement de vous dire ouais, j'ai confiance en ce mec parce qu'il a une stratégie qui, en tout cas, sur les 60 années, ont l'air d'avoir plutôt bien fonctionné. Quand vous regardez des fonds crypto comme ça, c'est des fonds qui ont 2-3 ans de recul. Et aujourd'hui, celui qui fait de la crypto depuis 2-3 ans et qui est négatif, on peut se poser des questions sur ses compétences puisque c'était quand même relativement facile et c'est peut-être à partir de maintenant que ça va être beaucoup plus compliqué de gérer ce genre de choses. Mais voilà. Faites votre due diligence, obtenez un maximum d'informations et faites-vous votre propre idée. C'est beaucoup plus facile de donner une opinion sur une société que sur un fonds et surtout quand c'est des thématiques aussi spécifiques. Voilà, encore une fois, je me suis dit aujourd'hui, je vais faire une vidéo plus courte parce que c'est vendredi, je n'y arrive pas, même quand il y a moins à dire, je m'étale quand même, donc je m'excuse d'avoir peut-être trop parlé de nouveau ce matin. En tous les cas, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que c'est vendredi, ce soir c'est le week-end, on va pouvoir se changer les idées avec, on espère, pas trop de mauvaises nouvelles du côté du variant Omicron. Donc de mon côté, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne Suisse Côte Suisse, n'oubliez pas de liker cette vidéo, enfin si vous aimez, et puis revenez lundi matin parce que je serai toujours là, fidèle au poste. D'ici là, très bonne journée, bon week-end et à lundi. Bye bye.